Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi. Et tout d'abord, merci d'être toujours aussi nombreux, d'être encore plus nombreux à nous écouter, à nous regarder tous les jours. Vous êtes 2 millions voilà, à nous suivre à la fois sur RMC à la radio et sur RMC Story à la télévision. 900 000 auditeurs sur RMC. On est désormais la troisième radio de France entre midi et 15h. Et tout ça, c'est grâce à vous. Alors vraiment, merci. Et puis vous pouvez également nous écouter en podcast sur l'application RMC. En tout cas, on est ravis de ces audiences. Autour de la table aujourd'hui dans Estelle Midi, il y a Rémi Barré. Salut Rémi.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Thierry Moreau, notre spécialiste finance, tiens d'ailleurs. Ça va Thierry?
Ça va très très bien. Un coup de chapeau pour tous ceux qui sont hors l'antenne et qui travaillent aussi pour cette émission. Exactement. Et qu'on ne voit pas ni à l'écran ni au micro.
Exactement. Toutes les équipes d'Estelle Midi. Julien Damon, notre sociologue, professeur à Sciences Po et à HEC. Salut Julien.
Bonjour.
Et puis le journaliste aux maisons, Fred Hermel. Salut Fred.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Allez, aujourd'hui, au sommaire, dans Estelle Midi, les chiffres alarmants sur la pauvreté en France. Avez-vous peur, vous aussi, d'être déclassé? On attend vos réactions au 32-16. À 13h, on parlera du Conseil d'État qui empêche la mairie de Beaucaire d'installer une crèche dans ses murs. Est-ce que c'est logique ou scandaleux? À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On s'intéressera aux clients mystères, un bon plan pour arrondir vos fins de mois et passer du temps dans des endroits de rêve. Stéphane vous expliquera tout ça. À 14h, après le mois sans alcool, après le mois sans tabac, voici le No-Nut November, le mois sans sexe. Alors, un mois sans faire l'amour, cap ou pas cap, on attend vos témoignages, vos réactions au 32-16 et sur l'appli RMC. Et puis peut-être Rémi aujourd'hui, qu'on ouvrira le coffre RMC pour fêter toutes ces bonnes audiences.
Peut-être, puisqu'à quelques jours de la Coupe du Monde, RMC vous offre le meilleur de l'équipement high-tech. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant coffre par SMS au 732-16. Et si vous êtes sélectionné, eh bien vous repartirez avec le téléphone Samsung Galaxy M23 et avec le rétroprojecteur portable.
Visio ou rétro?
Alors moi,
c'est un visio. Oui.
Bon, rétro, c'est quand on était petit.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est un visio.
On va dire visio-projecteur. En tout cas, on a compris que ça vous permettra de regarder tous les matchs de la Coupe du Monde, où que vous soyez. Soit vous gardez ce cadeau à ce moment-là, soit vous y renoncez et vous ouvrez le coffre de la Coupe du Monde. À l'intérieur, soit des AirPods, soit une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini-pizza et un mini-bar.
Génial.
Pour jouer, vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
17 sur RMC et on va démarrer tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est le rapport du Secours catholique sur la pauvreté en France. Et ce rapport, Rémi, il est alarmant. Près d'un million de personnes ont été aidées par l'association l'an dernier. 200 000 de plus qu'en 2020. 70% de ces ménages vivent sous le seuil d'extrême pauvreté.
Exactement. Ce rapport nous dit que les pauvres sont donc de plus en plus nombreux dans notre pays et que leur pauvreté augmente. Il faut d'abord comprendre ce que l'on définit exactement comme pauvre dans ce rapport en France. Il y a des critères très précis pour ça. Et considéré comme pauvre, un ménage dont le niveau de vie est inférieur à 1132 euros par mois et comme extrêmement pauvre, un foyer avec moins de 755 euros mensuels. Et en fonction de ces critères, donc, sur l'ensemble des personnes accueillies par le Secours catholique, 69% des ménages vivaient sous le seuil d'extrême pauvreté en 2021 contre 66% en 2020. Dans son rapport, l'association estime que la moitié de ses foyers étudiés disposent de moins de 5 euros par jour et par personne de reste pour vivre. Le reste pour vivre, c'est ce qu'il vous reste une fois les charges fixes payées. Moins de 5 euros donc par jour pour manger, acheter des vêtements ou se divertir. Alors le Secours catholique précise, il faut au moins 7 euros par jour et par personne, rien que pour manger, se nourrir correctement. Conséquence, 48% des ménages rencontrés par le Secours catholique se retrouvent dans l'incapacité de couvrir leurs dépenses alimentaires quotidiennes, soit une augmentation de 3 points depuis 2020. Des pauvres de plus en plus pauvres, on l'a compris, et de plus en plus nombreux en 2021. Tu l'as dit Estelle, l'association a accueilli près d'un million de personnes contre 770 000 l'année précédente.
Alors, avez-vous peur de devenir pauvre? C'est la question qu'on vous pose dans Estelle Midi. Mais tout d'abord, Julien Damon, est-ce que vous êtes étonné par ces chiffres et par l'ampleur, en fait, finalement, de la pauvreté en France?
Je voudrais d'abord les nuancer, ces chiffres, parce que ce ne sont pas les chiffres de la pauvreté, ce sont les chiffres du Secours catholique. Le Secours catholique est une des principales associations françaises qui, depuis une quarantaine d'années, produit des chiffres sur son activité. Son activité a augmenté en 2021 comme elle augmente en 2022 par rapport à l'activité de 2020, comme nous étions tous confinés. Donc qu'il voit davantage de situations n'est pas extraordinaire. Ensuite, chaque année, les associations, au début de l'hiver, à la fin de l'automne, nous disent que c'est de pire en pire. Chaque année depuis 40 ans. Maintenant, les chiffres INSEE, les chiffres qui peuvent paraître plus bureaucratiques, plus éloignés du terrain, comme l'on dit, ne disent absolument pas la même chose. L'effort social qui a été consenti pour amortir les chocs de la crise Covid, les chocs du confinement, ont permis à la pauvreté, en réalité, de rester stable. Ce que montre le rapport du Secours catholique, en effet, c'est les cas d'extrême pauvreté, de gens qui peuvent échapper à la statistique officielle, ne serait-ce que les personnes qui sont à la rue. Et parmi les principales évolutions de ce que montre le Secours catholique, c'est la proportion des étrangers, c'est la moitié 50%. Des personnes rencontrées. C'était 20% il y a une trentaine d'années. Et parmi ces étrangers, la grande majorité sont sans papier. Donc c'est une pauvreté bien singulière que nous montre à voir le Secours catholique et qui, évidemment, peut être alarmé parce que ce sont des conditions de vie parfaitement indécentes. Mais ça n'est pas la pauvreté en général.
Est-ce qu'il peut y avoir une peur, en fait, en France, Fred Hermel, justement, cette peur de devenir pauvre, d'être déclassé? Parce qu'on a quand même l'impression que... Alors, bien sûr, ce sont des catégories très particulières, vous l'avez dit, Julien, mais en fait, on se rend compte que tout le monde peut devenir pauvre. Hier, on parlait de la retraite minimum qui va passer à 1130 euros, mais pauvre, c'est en dessous de 1132 euros, quoi. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez travailler aujourd'hui, avoir travaillé toute votre vie, et finalement, être pauvre.
En fait, il y a une grande peur, et ce que je ressens énormément dans le pays, des classes moyennes. En fait, parce qu'avant, la classe moyenne en France se sentait privilégiée, elle était riche. Aujourd'hui, la classe moyenne tire vers le bas. C'est tous les chiffres le montrent. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, on a, par exemple, je regarde dans le rapport du Secours catholique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes isolées avec enfants, mais aussi beaucoup d'hommes seuls qui sont pauvres. Et pas que des étrangers. Parce qu'il y a des accidents de la vie, par moment, où...
Et puis un célibataire paye 28% de plus que les personnes en couple.
Mais il y a, par exemple, un homme qui travaille, marié, les enfants, etc. Il perd son travail, il perd sa femme, il perd ses enfants, il perd sa maison, il se retrouve dans la voiture, et puis après, c'est la dégringolade, il se retourne. On a beaucoup, beaucoup de témoignages de gens, quand vous parlez avec des SDF, qui sont dans ce cas-là. Donc, en fait, il y a aujourd'hui une crainte chez des gens qui se sentaient privilégiés avant, des petits privilégiés, qui étaient la classe moyenne française. La classe moyenne aujourd'hui est beaucoup plus pauvre qu'avant. Je voyais, par exemple, moi qui ai vécu en Espagne, la classe moyenne espagnole, traditionnellement, elle est beaucoup plus pauvre que la française. Mais je commence à retrouver ici les mêmes craintes que je voyais en Espagne. La classe moyenne aujourd'hui, vous savez, les gens qui sont, on en parle souvent, mais juste au-dessus des aides, qui sont à 2000 et quelques, à deux, avec deux salaires, les travailleurs pauvres, comme on dit aujourd'hui, et avec cette inflation énorme, fait que les gens ont cette crainte. Alors, je suis vraiment d'accord avec toi dans le sens où il y a quand même, en France, pour les gens qui sont avec des papiers dans le système, il y a des bornes sociales. C'est-à-dire, quand on commence à dégringoler, on est
soutenu. Enfin, t'as le RSA à 540 euros, c'est pas ça qui va te permettre de bien vivre.
Il y a quand même des bornes. Mais il y a cette crainte de déclassement. Il n'y a plus cette progression sociale. Avant, un ouvrier imaginait que ses enfants, et faisait tout pour que ses enfants soient socialement plus élevés qu'eux. Aujourd'hui, des gens qui ont des enfants aujourd'hui ne savent pas si ces enfants vivront aussi, leurs enfants vivront aussi bien qu'eux. Donc oui, il y a une crainte de déclassement, surtout du côté des classes moyennes populaires.
Thierry Moreau, c'est vrai que dans Estelle Midi, on parle beaucoup de la politique d'échec de l'État, mais quand on voit ces chiffres, on se dit que finalement, l'État, ils ont raison d'aider, parce que quand on est sous le seuil de l'extrême pauvreté, comment on vit? Justement, est-ce qu'il faut aider ces catégories en priorité et arrêter les aides pour tous finalement?
Alors, j'irai un petit peu dans le sens de Julien tout à l'heure. Toutes les statistiques que donne ce rapport, à chaque fois, ils disent sur les personnes que nous accueillons.
Un million
donc,
de personnes.
Hein, donc il faut, oui. Mais oui. Donc à chaque fois,
oui, les Bernard Arnault, il ne va pas donnent, au Secours voilà. catholique, ça, je suis d'accord avec
vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, la direction des statistiques des ministères sociaux fixe à 1102 euros par personne le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, il y a 14,6% des gens qui sont sous ce seuil. S'il n'y avait pas les minima sociaux, ce serait 22,2%. Donc aujourd'hui, on a quand même, malgré tout, un matelas qui aide les ultra pauvres, qui n'est peut-être pas assez important, ça on peut en discuter, qui est peut-être donné de manière on peut discuter de tout ça. En fait, il y a deux risques de tomber dans la pauvreté qui nous guettent tous. La première, c'est l'accident de la vie, comme tu as dit tout à l'heure. Ça peut être un accident, une maladie physique, ça peut être une séparation, ça peut être douloureuse et on perd tout, ça peut être un licenciement qui se passe mal. Moi, j'en ai connu une dans ma famille et ça enclenche directement une spirale qui peut t'amener à une extrême pauvreté. Et puis, il y a ce dont tu parlais aussi, qui est le déclassement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les dépenses contraintes, elles augmentent. Aujourd'hui, il y a eu une étude du CSA qui montre que les dépenses contraintes en moyenne en France, elles sont de 1059 euros. 1059 euros. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est plus que les minima, que le seuil de pauvreté. Avec une part de l'habitat qui augmente, une part du transport qui augmente,
c'est l'inflation,
une part
hein.
évidemment des crédits à la conso qui sont souvent utilisés par les parties les plus pauvres qui augmentent aussi. Et donc, ça explose. Et donc, il y a ce sentiment de déclassement qui fait qu'on se sent pauvre à un moment, même si on n'est pas dans l'extrême pauvreté, plus l'extrême pauvreté quand on a un accident de la vie. Et ça peut tous nous arriver. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est assez fort, qu'on croise, qu'on rencontre et qu'on voit autour de nous, oui, bien sûr.
Rémi, vous avez beaucoup de messages sur l'appli RMC.
Exemple, avec le témoignage de Farid, qui nous arrive à l'instant sur Direct Studio, l'application RMC. Je suis routier et mon pouvoir d'achat s'est effondré depuis quelques mois, entre le gasoil pour aller au travail, le prix du caddie qui a explosé. Je pense que je vais bientôt m'endetter pour continuer à vivre ou à survivre avec mes deux enfants dont j'ai la garde.
Et puis il y a un effet pervers.
On rappelle quand même que dans les supermarchés, l'inflation elle est à deux chiffres.
Ouais. Ouais. Il y a un effet pervers aussi, c'est que quand il y a une inflation et qu'il y a un réajustement des salaires, voire du SMIC, il y a un décalage entre les deux. C'est-à-dire que les gens payent avant d'avoir la hausse du SMIC ou la hausse du salaire dans leur entreprise. Ce décalage-là, quelquefois, il est ravageur.
Oui, mais ceux qui sont juste au-dessus du SMIC, eux, ils n'ont pas d'augmentation. Donc, en fait, il y a aussi...
Il faut aussi parler de ces gens-là. Ils ont aussi un décalage. Oui, tout à fait, vous avez raison.
On a Wilfried qui nous appelle de Listrac Médoc en Gironde. Bonjour Wilfried.
Oui, bonjour Estelle.
Bonjour.
Je sais pas si vous vous rappelez de moi, il y avait quelques temps, j'avais poussé un coup de gueule par rapport à la pauvreté. Donc je m'en excuse déjà parce que j'avais trop j'étais pris par l'émotion. Et vous savez, moi ça fait 13 ans que je suis invalide.
D'accord.
Donc ça arrive à tout le monde de tomber malade et de tomber dans le seuil de pauvreté.
Exactement.
Moi je vois ma femme qui a perdu la moitié de son emploi à cause du Covid, maintenant qui travaille à mi-temps, qui fait 80 km par jour, qui paye 21 euros de stationnement pour travailler.
Ouais. Ouh, ça, c'est pas
on normal. Gagne 1700 euros par mois. On mange pas de viande, on mange pas de poisson, on prend pas de vacances depuis 2 ans. On est au seuil, on est toujours endetté à partir du 10 du mois, on est à découvert. On est sous la menace de nous prendre tout, parce que là, la seule richesse que j'ai, c'est la maison de mes grands-parents que j'ai héritée. Je 55 ans, je suis obligé de voler pour manger, c'est normal.
Non, bien sûr que c'est pas normal, Wilfried. Bien sûr que c'est pas normal.
C'est normal, à 55 ans, pendant 13 ans, je me bats pour ma maladie. J'avais un bon travail, et puis je me retrouve dans une situation, mais terrible, terrible, honteuse, parce que moi, j'ose pas aller voir les gens, parce que c'est une honte pour moi. C'est une honte. C'est une honte, à 55 ans, d'aller mendier. Alors, je préfère aller voler. Mais je me dis, je préférerais même aller en prison, parce qu'au moins, je serais chauffé, parce que moi, je me chauffe pas.
Oui, mais Wilfried, vous avez travaillé, donc en fait, je veux dire, c'est des subventions.
226 euros par mois d'âge.
Oui, mais vous y avez droit.
800 euros de salaire.
Oui, mais après, il y a aussi quasiment la moitié des Français qui peuvent toucher des allocations et qui en fait ne les touchent pas parce qu'ils ne savent
pas
qu'ils ont
droit.
J'ai rien droit à d'autres, moi. J'ai rien droit à d'autres parce que je suis propriétaire.
Mais pardon, vous touchez quoi? Vous avez dit l'AAH ou une pension d'invalidité?
926 euros.
L'allocation adulte handicapé.
L'allocation adulte handicapé, c'est ça?
Oui.
Et auparavant, vous avez une pension d'invalidité parce que vous avez perdu votre boulot, c'est ça?
Non, j'ai pas eu de pension d'invalidité parce que c'est une maladie.
D'accord.
Qui n'est pas reconnue pour une maladie du travail. Donc, je suis tombé malade, j'ai deux maladies auto-immunes qui m'handicapent énormément. J'ai une SPA, une spondyloarthropathie ankylosante. Et je suis tombé diabète de type 1, mais très très grave, j'ai failli mourir. Donc je peux plus travailler. Je suis en incapacité à 80%. Donc voilà, j'ai pas de travail. Ma femme qui travaillait dans une EHPAD a été licenciée pour le Covid parce qu'elle était animatrice. Elle avait deux. En fait, elle travaillait à la Croix-Rouge.
D'accord.
Elle avait un contrat à durée déterminée et à temps complet.
Et aujourd'hui, elle est à mi-temps.
Voilà, et à mi-temps parce qu'elle travaillait pour deux sociétés, Elior et la Croix-Rouge. Maintenant, elle est animatrice. Vous vous rendez compte, elle fait 80 km par jour avec le prix de l'essence. Et il n'y a pas de stationnement pour les salariés. Elle
paye 21
euros de stationnement.
Non,
autrement, c'est 35 à 40 euros d'amende. Donc, comment voulez-vous vivre? On peut pas vivre. Vous savez, je vous avais parlé, Estelle, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait des gens qui dormaient dans leur voiture, mais il y en a de plus en plus.
Donc,
par exemple, à Pauillac, une ville de 15 000 habitants, il n'y a plus de boulangerie, parce que les trois boulangeries, on fait faillite. Il y a plus que les supermarchés. Il y a des mendiants partout. Il y a des bidonvilles en campagne. Dans le Médoc, il y a des bidonvilles, des gens qui vivent en caravane. Hier, j'étais à l'hôpital pour mettre des examens. Je suis passé à côté de la rocade de Bordeaux. Mais vous voyez des caravanes, des gens, des pauvres, comme aux États-Unis, qui vivent au bord de l'autoroute. C'est pas des gitans. Ce sont des gens qui n'ont plus de domicile. Ça, il faut venir voir. Je demande aux journalistes de Paris de venir filmer.
Mais il y en a aussi à Paris. Sur le périph, il y en a aussi beaucoup. Mais merci en tout cas, Wilfried, pour ce témoignage qui est poignant. Et c'est vrai, quand on entend Wilfried,
ce qui est le plus fort dans ce qu'il dit, c'est qu'il n'ose pas demander parce qu'il a l'impression de mendier. On est dans un pays redistributif.
Il faut rien demander, là. Il aura pas autre chose.
Il aura le chèque énergie, je pense.
Il veut pas aller au resto du cœur. Ouais.
Voilà. Exactement.
Il veut pas aller au secours catholique pour
ça. Ou au resto du cœur.
Il n'est pas comptabilisé, oui,
Le chèque, si, lui, il est comptabilisé.
Non, mais il n'est pas comptabilisé
par le secours catholique. Il est comptabilisé par l'INSEE, lui.
Tout à fait.
Et le chèque énergie va le recevoir automatiquement, tu vois.
Oui, oui. Donc, il faut pas hésiter à demander ce à quoi il peut avoir droit, même s'il n'a pas le droit à beaucoup de choses. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller vers des associations. Enfin, ce n'est pas une façon
mais
de...
Oui,
mais je comprends que ce soit hyper dur.
Le moment où tu y vas la première fois, c'est...
Ah, mais je pense que ça doit être très, très dur.
Bien sûr.
Mais il faut pas hésiter. Entre voler et aller à une association, vaut mieux qu'il aille à une association. En plus, quand on regarde... Alors, un des aspects très intéressants de l'étude du Secours catholique, c'est que ce que les gens demandent en priorité avant même qu'on paye leur loyer, qu'on leur donne à manger, etc., c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'on sent bien que notre auditeur, il a envie de parler. Sent bien que notre auditeur, il a envie de raconter son histoire et même de la partager. Ça l'aide peut-être un peu à partager son fardeau. Et ça, c'est très, très fort. Donc, faut pas qu'il hésite, franchement.
Alors, je voudrais qu'on entende Tony qui nous appelle de Saint-Agnan dans Lyon. On parle souvent des classes moyennes, justement. Bah, Tony, il est chauffeur de poids lourd. Il fait partie de ces classes moyennes. Il gagne 2 500 € par mois. Mais aujourd'hui, Tony, ça ne suffit plus, pour vous.
Oui, bonjour. Bah non, pas trop. Si je fais pas d'heure, non, parce que les 2 500 € en routier, c'est bien, c'est propre, c'est correct pour moi, mais c'est majoritairement des primes, des heures supplémentaires. Si j'en fais pas, demain, je suis comme tout le monde, je suis à 1 600 à 1 700 €, quoi.
D'accord.
Donc voilà, et puis ça, c'est tout coûte cher, la vie, dans les magasins, les caddies, ce que disait le monsieur avant. Même, par exemple, tenez le fioul, là, j'ai fait recharger ma cuve à fioul, j'ai pas droit au chèque énergie, rien du tout.
Parce que vous êtes à 2005, et 2005, c'est au-dessus des seuils, c'est ça?
En fait, c'est même au-dessus de la moyenne.
Ouais. En fait, ça dépend des organismes. Il y a des organismes qui vont se baser, ils vont prendre en compte vos primes, il y en a, ils ne vont pas aller en prendre en compte.
Bah oui. Donc, ça les arrange.
Donc voilà, j'ai dû payer plein pot, et après on fait avec, on n'a pas le choix, mais plus ça va aller, moins ça va pas aller en s'arrangeant, parce qu'avant, les gens faisaient des heures supplémentaires, parce qu'ils gagnaient des sous en plus, ils arrivaient à se faire plaisir à la fin du mois. Là, maintenant, les gens font des heures supplémentaires pour pouvoir survivre. Voilà.
Ouais, c'est ça qui est fou.
Là, c'est pour ça qu'après, les gens, ça les dégoûte du boulot, à mon avis. Moi, ça commence à me dégoûter, par exemple. Je me dis, je préfère être dans la mouise, mais profiter de ma santé et de ma famille, mes enfants.
Souvent, quand on est dans la mouise, on est en mauvaise santé. On est en plus mauvaise santé, Tony.
Ça dépend.
Il y a une vraie corrélation.
Je comprends Tony qui est des heures supplémentaires quand tu conduis un camion toute la journée. Je comprends que Tony se dise, mais
bien sûr,
je ne fais pas d'heures supplémentaires.
Bien sûr.
Et puis finalement, je vais profiter d'aide auquel je n'ai pas le droit en travaillant plus. Parce que de travailler plus pour gagner plus, là, c'est travailler plus pour survivre un peu mieux.
C'est ça. Il est à 2 500, il aura 1 800 avec le chômage et il n'aura pas de frais de déplacement.
D'accord.
Il ne veut pas le chômage, lui.
Parce que moi, je fais pas les choses au hasard. Avec le chômage, c'est pas 1 800 que je vais avoir. Eux, par contre, ils se basent pas sur les primes. Au chômage, je toucherai que 1 400 € à peu près.
Oui, donc ça fait quand même une grosse différence. Mais est-ce que, Tony, vous voyez que vous avez été finalement déclassé depuis plusieurs années? Est-ce que vous viviez mieux il y a 2 ou 3 ans, par exemple?
Surtout, on arrivait bien à vivre déjà avant le Covid, avant Macron, en fait. Avant Macron, je sais pas, avec Hollande, il y avait peut-être des petites choses qui n'allaient pas, mais bon, on arrivait à vivre de nos heures, on pouvait se permettre de se faire plaisir, ça allait. C'est là, au jour d'aujourd'hui, les gens, comme je vous dis, ils sont des heures pour, on peut même plus, c'est compliqué carrément de débloquer un crédit immobilier au jour d'aujourd'hui, avec les payes qu'on fait, parce que tout de suite, les banquiers nous parlent de taux d'usure, nous parlent d'inflation.
Mais ça, même pour les gens riches, le taux d'usure, malheureusement, ça n'a même rien à voir avec ce que vous gagnez, quoi. Toutes les catégories sociales sont touchées, mais est-ce que vous arrivez quand même avec vos 2 500 €, Tony, même si vous travaillez énormément, est-ce que vous arrivez quand même à vous offrir des petits plaisirs, un resto, un ciné de temps en temps?
Franchement, ouais, mais c'est beaucoup moins qu'avant, quoi. C'est beaucoup plus d'attention. C'est beaucoup plus d'attention. Parce que maintenant, on ne sait pas. Regardez, le gasoil, il est repassé à 2 euros. Moi, chez moi, j'ai plein de ma voiture pour aller bosser.
C'est ça.
Moi, le plein de ma voiture, c'est 140 €. Il y a plein de trucs quand on fait les courses, par exemple, au magasin, quand on veut faire plaisir à nos enfants ou quoi. Il y a tout qui est explosé. Là, il y a Noël qui arrive. J'ai regardé les prix des jouets pour ma fille. J'hallucine. J'ai dit, ah ouais, même ça, ça a pris.
Tout a pris, hein.
Ah ouais, maintenant, moi, je me plains pas. C'est, en fait, en gros, je me dis parce que ceux qui touchent 1500 euros, je me demande comment ils font, quoi.
Ben c'est ça, et encore plus ceux qui sont sous le seuil de l'extrême pauvreté. On vient d'en parler, mais merci beaucoup Tony, parce que voilà, on voit aussi que bah, même pour quand on gagne 2500 euros, bah, c'est dur, quoi.
Mais en fait, et les gilets jaunes, alors je ne sais, je ne présume pas des opinions de monsieur, mais les gilets jaunes viennent de ces classes moyennes basses. C'est-à-dire, ce n'est pas dans l'ultra pauvreté que vient la révolte. Non, c'est des gens qui sont déclassés comme ça. Des gens qui
travaillent
pas. Il y a encore quelques années sous Hollande, on pouvait s'acheter des cadeaux, faire des petits
mais
plaisirs.
Mais c'est pas grâce à Hollande, c'est parce qu'il n'y avait pas eu le Covid.
Le contexte économique.
Non, mais moi, je veux bien qu'on se dise.
Oui, bah, très bien.
C'était la panacée, mais enfin.
En tout cas, on a beaucoup craché sur le quinquennat de François Hollande. Il y a encore un témoignage qui montrait que c'était peut-être pas si mal que ça.
Oui, mais non, mais ça n'a rien à voir.
Tu dis des bêtises. Excuse-moi. Tu sais très bien que la situation d'aujourd'hui. Tu sais très bien que la situation.
On est d'accord. Monsieur, on a écouté son témoignage.
Bah, ce qu'on a fait.
Évoque
sa situation. Oui, bah, pendant les Trump glorieux, ça allait mieux aussi pour les Français. Oui,
enfin, non, mais la révolte des gilets jaunes, parce que là, on sent que dans le pays, il y a quelque chose qui gronde, etc. Ne viendra pas des ultra-pauvres. Viendra des gens qui se sentent déclassés. Parce qu'il y a quelque chose de honteux. Et qui provoque une colère en disant, mais pourquoi moi je n'ai plus le droit à ça?
Mais c'est ça.
Pourquoi j'ai pas le droit au petit restaurant? Pourquoi pour mes enfants j'ai pas le droit à un parc de jeux ou au ciné?
Enfin, n'oublie pas aussi, Frédéric, quand même, qu'on a aussi un matelas qui fait qu'aujourd'hui, l'inflation en France est une des plus basses d'Europe.
Mais bien sûr.
Ça serait pire ailleurs. Alors ça n'est pas une consolation, mais c'est au moins une contextualisation.
Julien, je vous sens très dubitatif sur ce que vous venez
Au contraire, je crois que c'est un point absolument clé. On a commencé là notre discussion en disant ah voilà, la pauvreté augmente, etc., etc. C'est terrible. En réalité, et pour parler de Monsieur Macron qui a été cité, pendant la période du quinquennat Macron, on a fait énormément pour les très pauvres, pour les pauvres. Ça peut paraître insuffisant, il y a des gens qui passent à travers les mailles, etc. Mais passent surtout à travers les mailles du filet social, ces classes moyennes inférieures, qui sont au-dessus des seuils des prestations. La principale
mais les seuils, c'est terrible, les effets de seuil.
Ouais, alors,
on se bat ici, on en parle régulièrement avec Estelle. Il faudrait des seuils progressifs.
Dégressifs.
Oui,
dégressifs, si tu veux. Mais pas le fait qu'on gagne 10 euros de plus et on perd.
Mais si, mais ils sont dégressifs. D'ailleurs, le système, il s'est amélioré. Sur le papier, les gens s'en aperçoivent pas, je peux le comprendre.
Ah, bah oui,
etc.,
ils s'en aperçoivent pas, ça se confirme.
Mais ceux qui s'en aperçoivent pas, c'est les journalistes. Parce que lorsqu'ils ont les dossiers sous les yeux, ils sont là en train de dire ah, bah oui, ils répètent la même chose. Du côté de la prime d'activité, en tout cas, ce qui permet à tout un chacun de pouvoir, de façon dégressive, continuer à gagner de l'argent à chaque fois que l'on reprend une activité, ça marche. Très bien.
Oui, mais pas sur la prime de rentrée scolaire, par exemple.
Pas sur les APL. Pas sur les APL.
Elle n'a rien à voir avec l'activité.
Pas sur les APL.
Et elle concerne. Les APL sont fonction de l'activité, mais c'est les seuils qui en effet pour sortir.
Il y a un effet de seuil.
L'ARS, mais il y a un effet de seuil même en sortie.
Mais surtout, c'est toujours 400 euros ou rien.
À partir du moment où il y a un seuil, il y a un effet de seuil. Voilà, c'est simple que ça. Sur l'ARS, c'est le cas, mais c'est pas une allocation de rentrée scolaire, c'est une allocation familiale. Ça n'a rien à voir avec l'activité.
Mais on parlait pas d'activité non plus. Bon, dans un instant, comme vous êtes très nombreux à nous appeler sur ce sujet, on va continuer à parler justement de ce rapport du Secours catholique. On parlait des Restos du Cœur. Tout à l'heure, on va avoir Hervé au téléphone. Il vient d'aller au Restos du Cœur pour la première fois, justement, et il voulait nous en parler. Donc on se retrouve dans un instant sur RMC. Continuez à nous appeler au 32-16. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, avec Thierry Moreau, Julien Damon et Fred Hermel avec vous bien sûr au 32-16. Vous êtes très très nombreux à nous appeler pour témoigner sur ce rapport du Secours catholique sur la pauvreté en France. Un rapport alarmant puisque 1 million de personnes ont été aidées par l'association l'an dernier, 20% de plus que l'année d'avant. 70% des ménages qui ont été vus par l'association vivent sous le seuil d'extrême pauvreté. Et Rémi Barré, vous avez beaucoup de messages sur l'application RMC.
Oui, comme celui de Florent par exemple, qui nous écrit: nous avons l'impression d'être en permanence en apnée. Je suis fonctionnaire catégorie C, je gagne 1600 euros par mois, mon mari gagne 1800 euros par mois dans l'industrie, nous avons un bébé, et bien nous sommes à sec le 10 du mois, pas de vacances depuis 6 ans, à chaque fois qu'on fait les courses, j'ai les larmes aux yeux. On a le droit à zéro aide, nous avons fait des études, tout ça pour ça. Mes parents n'ont jamais fait d'études mais gagnent autant que nous en pension de retraite. J'ai tellement honte de galérer ainsi.
Ouais, c'est horrible, hein, tous ces témoignages. Après, Julien Damon, il y a quelque chose aussi qui pose question, c'est que on sait que chaque mois en France, le gaspillage alimentaire, c'est 67 euros par personne. On se dit aussi que peut-être on devrait essayer de mieux gérer les choses. Je dis pas que évidemment les gens gèrent mal leur budget, mais on gaspille aussi beaucoup, quoi. Est-ce qu'il devrait pas y avoir aussi peut-être Même à l'école, quand on est petit, j'ai des cours de comment on gère son budget, etc. Quoi. Mais non, mais excusez-moi,
Il y a deux sujets. Le premier, c'est celui du gaspillage alimentaire en général. En réalité, on fait beaucoup mieux qu'auparavant. Par exemple, les Restos du Cœur, ils fonctionnaient historiquement sur les surplus de la politique agricole commune. Il y en a de moins en moins de ces surplus, et l'Europe finance directement les Restos du Cœur. Enfin, c'est compliqué, mais ça passe par des courroies financières plutôt que par des surplus. La deuxième chose plus importante dans la question, c'est les conseils en économie sociale et familiale. Qu'on apprennent à gérer un budget. Ça paraît être quelque chose.
Apprendre à faire les courses.
Ouais, il y a quelques pralines. Savoir ce que sont l'ensemble des coûts. Il y a les courses, mais les abonnements au téléphone, les assurances,
pas, en fait.
Tous ces trucs qui passent, toutes ces dépenses préengagées, ces dépenses contraintes, c'est ça les plus gros problèmes.
Je suis pas sûr que ça soit les plus gros problèmes parce que dans les
le reste à vivre se calcule après tes dépenses engagées et ce sont celles qui
ont parce que le gros problème c'est le prélèvement, c'est-à-dire que en fait il y a 10 ans en fait tu faisais des chèques à chaque fois donc tu voyais ce que tu payais. Là aujourd'hui c'est prélevé sur ton compte.
Absolument.
Je suis sûr que la plupart des Français ne savent même pas sur quoi ils sont prélevés,
la différence entre les impôts et Orange et Free.
C'est ça, tu te dis j'ai un abonnement à qui ça vient à l'idée d'appeler son opérateur téléphonique pour dire excusez-moi je paye tant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je paye moins? Tu vois, de renégocier ses abonnements, ça c'est possible, mais personne ne le fait. Ouais. Alors c'est possible.
Et il y a aussi un autre élément dans cette affaire de conseil en économie sociale et familiale, c'est par rapport à ce que Thierry évoquait, tous ces sujets de droits sociaux. Personne ne comprend rien, même les spécialistes ne comprennent pas forcément très bien. Et il n'est pas expliqué la façon dont on peut demander, même ses retraites, parce que je les mets au pluriel, parce qu'on a souvent cotisé à diverses caisses, les prestations logement, les prestations familiales, ce qui est proposé par les collectivités locales. Alors, parfois on le critique en disant il y en a trop, mais le seul truc, c'est que personne ne sait exactement ce à quoi on peut avoir droit.
Mais je crois qu'il faut avoir fait Polytechnique aujourd'hui pour demander à partir à la retraite.
Ah, c'est très compliqué. Je peux vous dire que moi j'ai commencé à regarder.
Tu pars à la retraite dans 30 ans.
Et pour filer la métaphore ou l'observation de Julien, il y a aussi les crédits à la consommation. C'est-à-dire, il y a un problème de surendettement terrible. Et en général, ce sont les gens les plus démunis qui se font avoir avec des crédits revolving à 15, 17, 20%, à 20% parfois, etc. Donc là aussi, l'État le fait quand même. L'État le fait de plus en plus. Mais il faut aussi préserver les gens.
Absolument.
Parce qu'à un moment, t'as envie de faire plaisir à tes enfants et on te dit, payer dans 2 ans. Et tu dis, allez, oui. Mais tu te mets dans, tu payes 3 fois le prix, quoi. Donc, ça aussi, ça fait partie de la pauvreté. Elle est aussi due à ce genre d'arnaque.
Plus t'es pauvre, plus tu payes.
Exactement.
Et quand
t'as découvert la banque, c'est toi qui payes le plus. Voilà.
Exactement.
Il y a une formule connue, c'est ça coûte cher d'être pauvre, parce que ça coûte plus cher d'acheter les biens de consommation les plus courants, ne serait-ce que pour ces raisons de surendettement, crédit revolving et compagnie.
Hervé nous appelle de Puteaux dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Hervé.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour. Et merci beaucoup Hervé d'être avec nous. Hervé, vous vouliez nous raconter votre expérience.
Oui, il y a je suis passé, comme je disais à votre correspondant, que je suis passé de la classe moyenne à la classe pauvre en quelques années. Je gagnais bien ma vie, je gagnais entre 2 et 3 000 euros par mois. J'ai été en fixe, j'étais chef monteur réalisateur. J'étais en fixe pendant 10 ans, après pendant 10 ans en intermittent. Et les 5 dernières années d'intermittence, ça a commencé à être le début de la fin. Donc moins de travail, parce qu'on vous remplace par des stagiaires plus bougies. Enfin bref, il se trouve que j'habitais dans le privé, donc un loyer que je pouvais assumer avant, que je n'avais pu assumer, qui prenait 75% de mon salaire ou des indemnités que j'avais. Les charges contraintes, exactement. Et il se trouve que j'étais bien obligé d'aller au Resto du Cœur. Et le témoignage que j'ai entendu avant du monsieur qui volait pour il n'osait pas demander. C'est vrai que ça a été la chose. Aller au Resto du Cœur, ça a été la chose la plus difficile de ma vie. Il y a une longue montée. J'étais à Rueil. Il y a une longue montée. Je voyais quelques personnes, des caddies vides devant moi. Je savais très bien où ils allaient. Et je vous assure que je ne suis pas rentré tout de suite parce que c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un travail depuis 2-3 ans.
Ouais.
Je suis au SMIC. Ce que je fais me plaît. C'est au moins ça déjà. Depuis un an, je suis en HLM, ce qui fait que je sors de la survie, parce que pendant 6 ans, même encore aujourd'hui, avec ce qui se passe, les inflations et autres, je pensais que j'allais pouvoir manger 2 fois par jour, et en fait non. Ça fait 6 ans que je continue à ne manger qu'une fois par jour, le soir, pour arriver à dormir, parce que sinon c'est impossible. Et je me dis, effectivement, autour de moi, je vois de plus en plus de gens qui se retrouvent dans une galère comme moi, finalement. Sauf que moi, finalement, j'y suis préparé, je commence à y être habitué, mais je vois bien que c'est de plus en plus le cas pour des gens qui sont autour de moi et qui étaient dans la classe moyenne, quoi. Ils se retrouvent, effectivement, et même, déclassés ou parce que ils perdent leur travail ou parce qu'ils ont un coup dur dans la vie ou parce que leur salaire ne monte pas et que tout le reste augmente. Et mais je vous assure que oui, demander de l'aide, même à la ville, parce qu'on a des super assistantes sociales. Ça reste des démarches qui sont très 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 difficiles à faire dans le sens où on a honte. On a honte. Il n'y a pas d'autre mot.
Et Hervé, à quel moment vous êtes dit, je vais devoir franchir le pas, je vais devoir aller au Resto du Cœur?
Quand j'avais plus rien, mais rien à manger, mais vraiment rien, et que je voulais pas demander, j'ai une amie qui m'aidait, mais je voulais pas non plus vivre sur elle, et à un moment, vous avez pas le choix. Si vous mangez pas, vous dormez pas. Vous voyez, donc ne serait-ce que faire un repas, juste un repas qui me permettait de dormir sans avoir la faim, quoi, parce que sinon c'est pas possible.
C'est très dur, hein, ce que vous racontez, Hervé. Vous voulez réagir, Julien?
Ah mais il le décrit bien mieux que je ne saurais le faire, au sens où je n'ai jamais été contraint de le faire. Mais c'est exactement ça. C'est une formidable source de la honte que d'être obligé pour la première fois de demander de l'aide, que ce soit une assistante sociale dans un système public, que ce soit un bon alimentaire. Pour la première fois, parce que quand on bascule. Et de la même manière, la première fois que l'on est contraint de mendier d'une manière ou d'une autre. Je dis ça parce qu'il y a souvent des réflexes assez bourgeois, je trouve, consistent à dire, regardez, il y a plein d'aides, il y a plein de machins, etc. Puis les gens qui mendient se font des sous et compagnie. Non. Entrer dans ces carrières, si j'ose dire, c'est quelque chose de terrible. Et le propos qu'on entend là, et on sent l'émotion, en témoigne parfaitement.
Il met un point aussi sur un phénomène qu'on néglige un petit peu dans notre discussion, c'est le fait qu'il a été obligé d'arrêter son premier travail parce qu'on l'estimait trop vieux. Et le travail aujourd'hui des seniors...
Parce qu'on avait trouvé les stagiaires moins chers.
Et puis aussi, il a dit parce que j'étais trop vieux. Il a employé ce mot-là. Aujourd'hui, dans plein de professions, on vous jette après 50 ans, après 55 ans, et on vous remplace par un jeune moins cher, voire un stagiaire. Et ça, tant qu'on ne s'intéressera pas au travail des seniors, c'est-à-dire, seniors, c'est plus de 50 ans. Quand on ne s'intéressera pas à ça, on aura des phénomènes comme celui-ci, où des gens sont déclassés, sont obligés de changer de métier, parce que dans leur métier d'origine, on ne veut plus d'eux. Et ça, c'est un truc qui est très fort.
Merci en tout cas, Hervé, de nous avoir appelé au 32-16 et d'avoir raconté ce que vous viviez dans Estelle Midi. Voilà, Hervé qui a quand même retrouvé un travail aujourd'hui, qui est chauffeur pour personnes en mobilité réduite. Merci beaucoup. Hervé, on va terminer avec Patrice qui nous appelle de Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Et Patrice, alors vous êtes à 3 600 € par mois avec votre épouse, hein, je crois, mais vous avez 7 enfants. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir?
Eh ben oui. Je comprends tout à fait le désarroi des gens, attention. Mais par contre, nous, on s'en sort très bien. On part en vacances. On se fait des repas quasiment tous les week-ends. Et on mange tous les jours à notre faim. Et on s'en sort très bien. Voilà.
Comment vous l'expliquez? Vous êtes propriétaire?
Non, pas du tout. Je suis locataire. J'ai 800 € par mois de loyer.
Et avec 7 enfants?
Oui, non. Les enfants sont grands, attention.
Ah, d'accord.
Mais on les aide. Il y en a une qui est étudiante. Le dernier qui a 9 ans qui est à l'école, et les autres qui sont casés ou qui ont leur appartement.
D'accord.
Mais donc on est bien obligé de les aider aussi. Alors on les aide et on s'en sort très bien. Je vais vous dire, on fait des courses toutes les semaines, mais on fait attention en faisant les courses. Mais moi, je suis dans un pays où je suis le plus heureux au monde. Quoi. Je veux dire, je me lève le matin, j'ai un grand plaisir à aller travailler. Tout va très bien, quoi. Je veux dire, j'entends tout le désarroi des gens, attention, hein. Mais voilà, moi sur les chantiers le matin quand j'arrive, je discute avec les collègues, j'en n'entends pas beaucoup qui te plaignent, parce qu'ils travaillent, ils ont toujours travaillé dans leur vie, donc ils ont pu mettre un peu d'argent de côté, et ils sont heureux aussi. Donc c'est vrai que d'entendre le monsieur que je viens d'entendre tout à l'heure, ça me révolte d'entendre ça, parce que ça devrait pas exister. Mais voilà, moi je sais que je suis mais vraiment heureux. Voilà. Voilà.
Vous faire des tutos sur Internet, Patrice, comment être heureux. Non, mais bravo, hein, Patrice, et c'est bien d'entendre des gens comme vous qui ont encore la pêche et qui disent on peut y arriver, parce que 3 600 €, donc ça fait 1 800 €, 1 800 € par personne. Alors, mais avec quand même des enfants à charge et qu'on doit aider. Donc
la question, vous vivez dans Pyrénées-Orientales, 800 € de loyer, vous vivez dans un village ou pas dans une grande ville, non?
Oui, tout à fait, dans un village, oui.
Ah, c'est ça. Et donc vous êtes dans le bâtiment également. Vous travaillez au noir aussi un petit peu, Patrice, ou
pas du tout?
D'accord, je demande.
Bravo, chapeau bas. Et vous avez les allocations familiales en plus ou c'est compté dans vos 3600
Pas du tout, j'ai pas. Non, j'ai aucune. J'ai zéro comme allocation de logement ou quoi que ce soit.
Mais allocation familiale, vous les avez, monsieur, si avec ton enfant.
Oui, on a 130 euros, je crois.
Ça, c'est pour deux enfants, c'est tout.
Non, mais c'est pas les recomposés.
Quoi, voilà. Pour les mineurs, ceux qui sont moins de 18.
Mais oui, et
bien sûr, mais comme il y en a chez lui encore.
Ouais.
Il n'en a qu'un chez lui, c'est une famille recomposée.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Vous êtes dans un secteur où il y a un manque de personnel, donc je pense que vous ne manquerez pas de travail demain matin.
Mais je vais vous empêcher d'interpréter quelque chose de fondamental, je trouve. J'ai déjà fait. Ça a trait à cette recomposition familiale, monsieur, recomposition familiale heureuse, et ce qui a été dit sur le rapport du Secours catholique, puisque dans la très grande majorité des cas, les gens qui viennent voir le Secours catholique sont des personnes isolées, parents isolés. Et bien, comme il y a à la fois des hommes et des femmes isolés, ma proposition fondamentale, à la fois pour sourire et sérieuse, c'est qu'on fasse tout pour que ces gens redeviennent heureux ensemble. Il faut que les gens reconstituent des couples, des familles, et ceci leur permet de mettre en commun des moyens et d'être plus heureux comme ce dernier interlocuteur. Je dis ça avec un petit sourire et en même temps en étant très sérieux.
Oui, parce que alors, sachez qu'on a recruté Julien Damon dans cette émission parce qu'il avait eu cette idée formidable de créer une agence matrimoniale au sein de la CAF pour qu'effectivement les parents célibataires puissent se rencontrer et donc se remettre en couple. Et donc ça aurait coûté moins cher à l'État.
Ça fonctionne.
Et ces gens auraient été heureux.
Non, ça fonctionne pas, c'est mon grand combat.
Personne ne l'a écouté.
Mais c'est très sérieux. On a vu le sujet arriver.
Mais attention, parce que la notion de famille est tellement dénigrée aujourd'hui. Ça part de ça aussi.
La famille, ça peut être un couple. Il y a plein de façons d'être en famille.
En tout cas, merci à Patrice pour ce témoignage. Patrice, qui lui est heureux, mais ça fait plaisir. Oui, ça fait un peu de plaisir à entendre également la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'Estelle Midi, @EstelleMidi, c'est avez-vous peur de devenir pauvre, Rémi?
C'est le oui qui l'emporte et il est massif. 73% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux ont peur. Potentiellement de tomber dans la pauvreté.
Je me permets une formule très simple là-dessus.
Oui,
c'est vrai. Tout le monde peut tomber dans la pauvreté, mais absolument pas avec la même probabilité. On a cité Monsieur Pinault tout à l'heure. Il peut avoir peur, mais les probabilités qu'il tombe dans la pauvreté sont très faibles. Les enfants des parents que l'on a entendus tout à l'heure, en tout cas des personnes en désarroi, ça pèse davantage sur elles. Non, mais la France est persuadée que ça peut arriver.
C'est logique ce que vous dites, Julien.
C'est tout à fait simple, mais on oublie de le dire parce qu'à force de dire ça peut arriver à tout le monde, on oublie ce truc fondamental, c'est que la pauvreté c'est d'abord la résultante des inégalités.
Dans un instant, on va changer totalement de sujet avec Anthony Morel qui va nous parler d'innovation pour vous réconcilier avec les trottinettes. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
1050 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony Morel, aujourd'hui, on parle de trottinettes parce que la ville de Paris réfléchit à interdire les trottinettes en libre service. Mais il y a peut-être d'autres options que l'interdiction pure et simple pour nous réconcilier avec les trottinettes.
Absolument. Il y a d'autres villes, d'ailleurs, Nantes, par exemple, où les trottinettes sont interdites également. Alors, je suis un petit peu tiraillé parce qu'à titre personnel, je déteste les trottinettes électriques, peut-être comme certains d'entre vous autour de la table.
Aussi.
Mais vous connaissez mon amour de la technologie. J'aime bien chercher des solutions. Et c'est vrai qu'il y a des trottinettes de nouvelle génération qui sont en train d'arriver et qui sont potentiellement beaucoup moins dangereuses pour les passants et accessoirement pour leurs pilotes. Des trottinettes qui sont équipées de caméras, de capteurs intelligents, un peu comme les voitures autonomes qui sont capables, en fait, par exemple, de repérer qu'il y a un piéton dans le champ et qui vont, si le pilote n'en a pas l'initiative, ralentir automatiquement.
Excusez-moi, si le pilote ne voit pas qu'il y a un piéton devant lui,
c'est un exemple ou une portière de voiture qui se
serait. S'il est aveugle et qu'il prend une trottinette, c'est embêtant.
Oui. Un autre exemple. Par exemple, elles vont être capables de comprendre sur quelle surface elles roulent. Est-ce qu'elles sont sur la route? Est-ce qu'elles sont sur un trottoir ou est-ce qu'elles sont sur une piste cyclable?
Mais ça, on le sait aussi.
Vous le savez, mais sauf que par exemple, il y a des gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qui roulent à toute vitesse sur les trottoirs.
Ah,
là, la vitesse, en fait, elle sera bridée sur le trottoir.
Super.
On ne peut pas rouler plus vite qu'au pas.
C'est
pas mal. Tiens, il y a aussi la question du port du casque. Il y a très peu de gens qui portent le casque en
trottinette.
Alors voilà, c'est toute la question. Alors là, il y a des systèmes d'incitation qui sont malins à base de selfies. C'est-à-dire que quand vous déverrouillez la trottinette, on vous demande de prendre une photo de vous. Et si vous avez un casque, la course va vous coûter beaucoup moins cher. Donc c'est une petite carotte.
Vous êtes enlevé juste derrière.
Ouais, mais après, le casque à la main sur la trottinette, en fait, vaut mieux l'avoir sur la tête en réalité. Donc c'est des petits petits systèmes comme ça qui sont en train d'être conçus et qui pourraient arriver là dans les mois qui viennent.
Le gros danger avec les trottinettes, quand même, c'est les trottinettes qui roulent avec deux personnes dessus, c'est-à-dire une trottinette sur deux, quoi.
Oui, exactement. Alors ça aussi, c'est un problème. Et alors là aussi, il y a des innovations assez intéressantes testées, notamment du côté de Lyon, une start-up qui s'appelle Pony. C'est des planchers de trottinettes qui vont comprendre s'il y a une personne ou deux personnes. Et s'il y a deux personnes, ça se verrouille automatiquement.
Ah, c'est bien.
Voilà, la trottinette se bloque. Donc ça, c'est pas mal non plus. Sur ces mêmes modèles, alors ça, c'est un truc assez malin parce qu'il y a des gens aussi qui sont assez inexpérimentés. Ils prennent la trottinette pour la première fois. Et ben sur les trois premières courses, votre vitesse va être bridée, 15 km/h maximum plutôt que 25. D'accord. Ça, c'est pas mal. Et alors, dernier petit truc, c'est pour éviter les fins de soirée un peu trop arrosées quand on prend la trottinette alors qu'on devrait pas, qu'on est un peu pété. Entre 22h et 5h du matin, vous devez, avant de déverrouiller la trottinette, réaliser un petit test de dextérité sur l'écran de votre téléphone. Si vous y arrivez pas, ça se passe automatiquement.
J'ai envie de faire ce test même sans prendre la trottinette.
Ouais, on peut aussi. Non, mais il y a un côté ludique. J'adore. C'est vrai que c'est assez malin. Donc voilà, quand on cumule tout ça, on se dit que peut-être qu'il y a un potentiel, au-delà de l'interdiction, à faire des choses un peu intelligentes.
Alors moi, mon combat, vous savez, c'est les trottinettes qui jonchent les trottoirs. Ouais, ça m'agace, vous pouvez pas savoir.
C'est très énervant, c'est très laid en plus.
Et c'est terrible pour les personnes à mobilité réduite.
En plus, ça bloque le passage complètement. Oui, alors, la solution, c'est peut-être la trottinette autonome. La trottinette qui est capable, écoutez bien, vous la lâchez au milieu de la rue, elle relève toute seule et elle rentre chez elle. Elle repart en fait vers sa station de recharge ou vers un endroit dans la ville où on a besoin de trottinettes parce qu'il y a une forte demande. C'est Segway qui travaille là-dessus.
Ah, vous connaissez Segway? Ah bah oui, c'est terrible.
Donc on va avoir des trottinettes passées avec personne.
Vous savez que le patron de Segway est mort en Segway.
Ah oui.
Ça m'a fait la pub à l'entreprise. Ouais, c'est un vrai truc. Je me rigolais pas, c'est vrai. C'est une histoire très connue.
Donc quelle idée de rouler en Segway?
Je sais bien.
Alors même si c'est sa marque.
Ben oui, mais bon, forcément, il faisait la pub de sa marque. Alors donc du coup, la trottinette, elle se relève toute seule. Le problème quand même avec toutes ces technologies que je vous ai présentées, qui sont très sympas, pourquoi pas, c'est évidemment ça coûte cher. C'est-à-dire que ces trottinettes connectées, intelligentes et tout, elles vont coûter 2, 3, 5 fois plus cher qu'une trottinette classique. Quand on sait la durée de vie moyenne d'une trottinette dans une grande ville aujourd'hui, qui est de, attendez, j'avais trouvé le chiffre, c'est 28 jours. C'est moins d'un mois.
Non.
Mais bien sûr. Mais attendez, mais vous avez vu le ce qu'en font les gens. C'est-à-dire vraiment, ils les traitent n'importe comment.
Les gens sont irrespectueux.
Ils les balancent pas au fond du
lac.
De la scène de la loi.
En plus, au niveau environnemental, c'est terrible.
En trottinette en libre service.
On reste sur l'interdiction.
Non, mais c'est un vrai problème. Donc, du coup, voilà, il va falloir aussi que ces technologies se démocratisent, coûtent un peu moins cher pour que ce soit vraiment intéressant pour les grandes villes. D'exploiter ce genre d'appareil. Voilà.
Merci beaucoup Anthony Morel. Voilà, tous les jours, midi 50. Dans Estelle Midi, dans un instant, on parle du Conseil d'État qui empêche la ville de Beaucaire d'installer une crèche dans sa mairie. Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est scandaleux? On attend vos réactions au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.